Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir à tous, où que vous soyez sur la planète. Merci de nous écouter. Bienvenue dans le débat du jour sur RFI. À l'occasion d'un sommet qui réunit à Versailles des chefs d'entreprise venus du monde entier autour d'Emmanuel Macron, chaque année maintenant, depuis 3 ans, à la même époque, le gouvernement annonce des signatures de contrats faramineux. Cette année, ce sont les chantiers de l'Atlantique. À Saint-Nazaire, figure de proue des annonces gouvernementales, avec une commande à 2 milliards d'euros pour 2 nouveaux paquets. Ce qui correspond à 2400 emplois pendant 3 ans et demi selon l'Élysée. Alors un très gros contrat qui vient s'ajouter à une récente étude qui place la France 2e pays le plus attractif d'Europe après l'Allemagne. Mais n'y a-t-il pas un paradoxe lorsque l'on voit la situation sociale dans le pays, crise à répétition, comme celle des gilets jaunes qui demandent une meilleure répartition des richesses, ou encore la grève du moment contre la réforme des retraites avec un gouvernement qui veut gommer les régimes spéciaux tout en mettant en avant des avantages fiscaux pour attirer les investisseurs étrangers. La France est-elle attractive? La théorie du ruissellement chère au président Emmanuel Macron porte-t-elle ses fruits? Autant de questions que nous allons poser à nos invités en studio à Paris. Bonsoir Benjamin Coriat.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur émérite à l'université Sorbonne Paris Nord et membre du collectif Les Économistes Atterrés. En quelques mots, Les Économistes Atterrés?
Bon, très brièvement, c'est une association d'économistes professionnels qui s'est constituée en 2008. Entre 2008 et 2010, après la crise financière, parce qu'après la crise financière, on a imaginé bêtement que les folies spéculatives, etc., étaient finies, qu'on allait recommencer à parler de choses sérieuses. Et puis, comme c'est pas du tout ce qui s'est passé, qu'on a commencé à expliquer que la dette était devenue insupportable, etc., à cause de la dépense publique, alors qu'en fait, la dette, elle a augmenté de 30% pour venir au secours des banques, on s'est dit, non, ça va pas, quoi. Et on a fait les économistes
atterrés. Voilà. En face de vous, Vincent Charlet, merci d'être là, bonsoir.
Bonsoir.
Délégué général d'un laboratoire d'idées intitulé La fabrique de l'industrie. Elle sert à quoi, cette fabrique?
Alors, justement, à alimenter le débat d'idées autour des différents sujets relatifs à l'industrie et à ce qui va permettre son avenir, son développement, ses perspectives. Donc, voilà, nous publions des études et nous les proposons au grand public. Elles sont toutes en accès libre.
Alors, au-delà des annonces du jour au château de Versailles, que pensez-vous de ce sommet annuel organisé donc par Emmanuel Macron en présence de 200 chefs d'entreprise venus des quatre coins de la planète? Y a-t-il un réel intérêt ou c'est de la communication politique, Vincent Charlet?
Non, je pense pas que ce soit purement de la communication politique. Évidemment, cette dimension n'est pas absente, mais on sait que dans les paramètres qui déterminent un choix d'investissement de la part d'un grand groupe étranger, il y a des arguments rationnels qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que le pays envisagé a une fiscalité attractive, des compétences sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer, des infrastructures qui marchent bien, etc. Et il y a une dimension conjoncturelle, et ça peut être un signe d'attention du politique. Donc ça peut effectivement aider à emporter le morceau, comme on dit vulgairement.
Et vous, Benjamin Coriat?
Moi, je pense que c'est une démonstration principalement de communication et qui est très importante pour Macron en particulier. Pourquoi? Parce que il a renoncé à toute politique réelle, industrielle, territoriale, etc. On a un reflux.
C'est un
de tous
raccourci
les financements
que vous faites ou?
Non, c'est pas du tout. Demander aux collectivités territoriales ce qu'elles pensent des financements qu'elles obtiennent. Vous voyez la politique industrielle en France? Il y en a pas.
Bah peut-être bon. Aujourd'hui au château
non,
de Versailles.
Non. Alors laissez-moi finir. Donc c'est important pour lui de faire un show d'investisseurs privés parce que toute sa politique consiste à donner les clés du camion aux investisseurs privés. Donc il faut qu'il mette ça en scène absolument parce que sinon il y a rien d'autre. Vous comprenez? Bon, alors, en plus, on l'a vu là, toutes les annonces sont reportées et faites ce jour-là. Voilà. Pour lui, c'est très important. Maintenant, pour la France, je suis beaucoup plus sceptique. On va en parler pendant les 20 minutes qui viennent.
Alors, peut-être qu'on va se mettre d'accord déjà sur la définition de l'attractivité. Vincent Charlet.
Bon, l'attractivité, c'est la capacité d'un pays à attirer à lui des entreprises étrangères et notamment effectivement des investissements. Non pas que ce soit absolument massif dans le fonctionnement d'une économie. En gros, la France attire, bon an, mal an, 30 à 50 milliards d'IDE. Investissement direct de l'étranger. Vous comparez ça aux 300 à 400 milliards de valeur ajoutée industrielle. Déjà, vous voyez bien que vous êtes sur un rapport de 1 à 10. Mais c'est pas tant pour les milliards que ça apporte que pour l'activité et les perspectives d'emploi que ça crée à terme, puisqu'on parle, contrairement aux commandes de chantier atlantique par exemple, on parle d'investissement, c'est-à-dire pas juste des achats, mais des gens, les AstraZeneca, Coca, etc., qui font le choix de venir ouvrir des sites et créer de l'activité sur le sol français. Et c'est bien plus que quelques dizaines de milliards qui vont avoir un effet sur le territoire.
Alors pour bien comprendre, vous prenez quoi comme indicateur pour mesurer une attractivité, en l'occurrence celle de la France?
Alors on la mesure effectivement en milliards d'euros d'investissement direct venant de l'étranger, ça c'est vrai. D'ailleurs, un petit commentaire au passage, si on compte pas en nombre de projets, mais en milliards d'euros investis, la France n'est pas à la première ni à la deuxième place européenne. Son rang est plus modeste, malheureusement, plutôt 8 ou 10e. Mais la France est un des rares pays qui, actuellement, dans un contexte où l'ensemble des IDE ont tendance à régresser du fait de replis frileux américains et chinois, la France est un des rares pays qui continue à voir ses investissements directs en provenance de l'étranger progresser. Donc il y a là un signe encourageant. Ça ne fait pas l'ensemble de la météo sur l'industrie française, mais voilà, c'est valorisant.
Benjamin Coriat.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Vous partagez ce que vient de dire Vincent Charlet?
Partiellement seulement. Bien sûr, c'est mieux d'avoir des investissements étrangers qui viennent sur le territoire français. Mais si vous voulez, toute cette focalisation qui est faite autour des investissements étrangers, au Choose France, etc., moi, j'ai envie de dire, ça a un côté vraiment rétro, c'est-à-dire que c'est vraiment la consonance des grandes années de la globalisation, hein, où il fallait se battre pour être attractif par rapport aux voisins, etc. Ces années, elles sont derrière nous. La globalisation, elle a conduit à des catastrophes. Regardez l'état de la planète. Écologique, j'espère qu'on va en parler tout à l'heure sur les investissements, l'état du climat, regardez les explosions financières auxquelles on a eu. Donc si vous voulez continuer à faire comme si on savait pas tout ça, que la finance a conduit à des explosions, a conduit à la destruction de la planète, et continuer à se battre pour des investissements étrangers, n'est visiblement pas une politique d'avenir.
En l'occurrence, là, les deux paquebots seront alimentés par du gaz naturel. Hein, à
oui, mais c'est, 2025. Non, mais c'est très bien. Mais si vous voulez, c'est plus le cœur de ce qu'il faut faire. C'est ça le message que je voudrais adresser.
Vincent Charlet.
Là, on a une vraie différence, divergence de fond. Je pense que pour la santé d'une économie comme la France, et surtout pour la santé de ces territoires, pour la cohésion de ces territoires et pour la cohésion des populations actives, retraitées, demandeurs d'emploi qui la peuplent, l'industrie a prouvé dans les années antérieures le rôle pivot de stabilisateur qu'elle y exerçait. Et je suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas de politique industrielle. Les politiques industrielles se considèrent plutôt à l'échelle de la décennie ou de deux décennies. Et il faut voir quels ont été les effets des différentes mesures qui ont été prises, pas seulement depuis 2017.
Ce sommet. Vous pensez que c'est trop tôt, là, en tout cas, pour mesurer les effets d'une politique d'Emmanuel Macron?
Oui, on mesure. Bah, demandez aux méthodologues. On ne mesure jamais les effets d'une politique publique à moins de 2 ans ou à plus de 2 ans.
Bah, il est élu en l'occurrence depuis plus de 2 ans.
Oui, non, mais enfin, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont pu porter leurs fruits, mais je pense qu'il faut vraiment rechercher et les atouts, encore une fois, les atouts comparatifs de la France remontent à bien avant cela. Mais encore une fois, faire en sorte que des emplois productifs, des emplois industriels puissent s'installer dans les territoires, c'est pas une vision d'hier, c'est vraiment aussi un besoin.
Non, c'est pas ça la discussion. Bien entendu, mais bien entendu, je suis pour que des emplois productifs et des emplois industriels s'installent dans les territoires. Bien entendu, il y a aucune divergence entre nous là-dessus. La question, c'est quelle est la méthode ? Est-ce que la bonne méthode, c'est de courir après l'investissement étranger en créant des conditions d'attractivité dont il faut quand même discuter. Moi, je voudrais vous dire quand même une chose. Vous savez où va 70% de l'investissement des banques consacrées à l'énergie? Vous savez où il va? Il va aux énergies fossiles. Il continue. Donc, je veux dire, la croissance à n'importe quel prix, l'investissement à n'importe quel prix, c'est fini, ça. C'est fini.
Alors, que faire pour attirer les entreprises si là-dessus, au moins, vous êtes d'accord?
Eh bien, je vais vous le dire. Je suis pas de ceux qui considèrent que l'investissement privé des entreprises est sans importance. Certainement pas. Mais elle est à la recherche de profit et elle est extrêmement moutonnière. Hein, les actionnaires, ils vont là où on leur dit d'aller, hein, en gros. Et je suis très mesuré dans ce que je dis. Bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous savons ? Nous savons, je suis très sérieux là, hein, pour la planète entière, pour nos amis africains comme pour tous les autres. Nous savons que nous avons absolument besoin de piloter et d'orienter une nouvelle trajectoire technologique et industrielle autour de la transition écologique.
Là, vous parlez à l'échelle mondiale.
À l'échelle mondiale, mais en France en particulier. En France, on est en retard sur tous nos engagements de la COP 25, de la COP 21, pardon. On est en retard. Bien. Alors, ça se fera comment, ça? Ça se fera seulement si le gouvernement français est capable de mettre suffisamment d'argent sur la table dans les filières nouvelles, dans la rénovation thermique, etc., pour faire venir les autres. À ce moment-là, les gens du privé, excusez-moi d'être un peu vulgaire, diront « il y a bon » et ils viendront. Mais si l'État donne pas le « là », ils viendront pas. Ils continueront, c'est pour ça que j'ai donné ce chiffre, ils continueront à investir dans les énergies fossiles, c'est-à-dire à nous amener vers la catastrophe.
Vincent Charlet, je me tourne vers vous. Pour vous, à quel prix faut-il attirer les entreprises? Baisser la fiscalité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les faire venir de manière, j'ose dire, intelligente?
Alors, on dit souvent que la stabilité vaut bien mieux que la surenchère fiscale, ou en l'occurrence la sous-enchère. Donc, offrir un cadre lisible et stable marche mieux, et être conscient de ses atouts comparatifs. Encore une fois, j'ai dit la qualité des infrastructures ou la qualité de la formation des jeunes diplômés dans notre pays sont clairement reconnus par l'ensemble des entreprises internationales. Ensuite, sur le climat et les perspectives. Je pense que personne ne prétend que le sommet Choose France soit la réponse unique à toutes les questions que se pose notre pays. Donc il y a à l'évidence un immense besoin, un immense défi sur la transition énergétique. À l'évidence donc le besoin de préparer le terrain, de préparer la transition et de dire aux entreprises dans quel cadre réglementaire elles... en partie contraignant, bien sûr, elles vont progressivement s'insérer. J'ai cru comprendre que le gouvernement actuel et le gouvernement allemand, plus la Commission, s'étaient maintenant mis en mouvement. En tout cas, nous, on reçoit un grand nombre de sollicitations de la différence des champs territoriaux, patronaux, publics, etc., pour essayer de comprendre dans quel horizon on se projette. Donc je pense que... si on est optimiste, les gens se sont mis en mouvement. Bien sûr, il y a urgence, mais les gens se sont mis en mouvement.
Un point de vue que j'aimerais aussi développer, ce sont les avantages fiscaux offerts à certaines entreprises. Là-dessus, qu'en pensez-vous ? Est-ce la seule solution pour les attirer ?
Non, encore une fois, j'ai dit, il y a d'autres avantages, d'autres atouts dont les territoires peuvent se prévaloir. Les avantages de long terme, comme le fait d'avoir une population, un marché dynamique, une population en croissance, des jeunes bien formés, des infrastructures qui, je me répète, excusez-moi, mais qui fonctionnent. Tout ça fait partie des facteurs d'attractivité. Par définition, les avantages fiscaux accordés à chaque projet, on les connaît pas. Et il y a le cadre fiscal dans son ensemble. Il a été débattu 1000 fois. On peut pas dire quand même que la France soit un pays de sous-enchère fiscale, même dans ses efforts pour attirer les entreprises privées.
En tout cas, certaines entreprises font de l'argent sur le territoire sans payer l'intégralité de leur impôt
en France.
Mais bien sûr, il y a non seulement cette dimension-là, mais il faut quand même, je veux dire, il faut quand même dire les choses. Il y a un certain nombre d'investissements qui, de toute façon, se feraient. Parce que la France c'est une grande population, qu'elle est logistiquement extrêmement bien située en Europe, etc. Parce qu'il y a le Brexit et que la porte d'entrée vers l'Europe que constituait l'Angleterre va cesser, parce que l'Allemagne est en fin de cycle. Donc de toute façon, il y a une série d'investissements qui se feront. Bien, les investissements additionnels, hein, si on peut en faire cette différence qu'on obtient grâce à la politique d'attractivité incitative, on l'obtient au nom d'un prix extrêmement élevé, hein, non seulement en argent, si je peux dire, hein, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, 7 milliards de crédits d'impôt recherche. C'est la fiscalité sur la recherche la plus favorable du monde, de la planète. Hein. Personne dépense autant d'argent par rapport à son PIB et personne contrôle aussi peu que cet argent va bien de ce côté-là. C'est la raison pour laquelle on a toute une série de pseudo-centres de recherche qui s'ouvrent au nom de l'attractivité, où il y a 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes, et où ça permet d'aspirer un crédit d'impôt recherche très important. Donc, si vous voulez, tout ça nous coûte pas mal d'argent, pas mal d'argent. Alors, je ne dis rien sur l'impôt sur la fortune, je ne dis rien sur la flat tax, tout ça, c'est des signaux donnés aux investisseurs qui nous coûtent extrêmement cher.
En revanche, moi, je vous fais réagir sur ce que l'on vit, en tout cas, là, depuis plusieurs mois, et je fais référence au mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, cette crise joue, j'ai envie de dire, favorablement ou défavorablement vis-à-vis des investisseurs étrangers ?
Écoutez, moi, je n'ai pas d'avis personnel, mais ce que je vois dans les statistiques, c'est que ça n'a pas joué.
Comment vous l'expliquez ?
Je pense que c'est un... Ce sont des événements conjoncturels qui nous heurtent à titre personnel, qui peuvent nous inquiéter ou nous mettre en colère ou nous faire débattre, mais que en fait ça change peu les fondamentaux et en particulier dans les territoires où l'industrie est encore bien présente, c'est pas forcément un événement massif tout le temps, et c'est pas ça qui va déterminer le cours d'action d'une entreprise dans le secteur du bâtiment ou la fabrication électronique, ou parce que la réalité est déterminée par d'autres choses que ça.
Est-ce à dire aussi finalement au monde entier que les Français ont du caractère quand on voit autant de manifestants dans notre pays?
Oui, en fait, si vous voulez, il y a toujours eu en France des phases d'explosion, parce que malheureusement, il n'y a pas de véritable négociation sociale, et donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc là-dessus, moi, je partage le point de vue, je ne suis pas du tout sûr que ça ait un gros impact sur les investisseurs.
Et en guise, déjà, hélas, de conclusion, en filigrane, lorsque l'on parle de cette attractivité de la France, est-ce qu'elle accrédite, d'après vous, cette théorie du ruissellement chère à notre président, le premier de cordée qu'emmène tout le monde?
En tout cas, le ruissellement sur les dividendes, ça marche à bloc. Hein. C'est-à-dire que cette année... Hein, on a battu le record historique de versement de dividendes en France. Hein. 50 milliards de dividendes plus 10 milliards de rachats d'actions. 60 milliards de francs, hein, d'euros, pardon, distribués aux actionnaires à un moment, parce qu'il faut quand même le dire, hein, à un moment où le crédit bancaire est à zéro. Hein. Ça veut dire qu'on paye vraiment cher, hein, l'investissement des actionnaires. Alors, ce ruissellement-là, il marche. Pour le reste, regardez de l'état de la France, hein, et j'ai pas l'impression que ça descende beaucoup plus bas que les actionnaires, si vous voulez mon avis.
Non, mais alors, le ruissellement n'a jamais été une théorie sérieuse, oui, n'a jamais été démontré. Là-dessus, il n'y a pas de débat, ça ne marche pas.
C'est pour ça que je l'ai pris sous forme de boutade.
En revanche, ce qui moi me paraît important, s'il reste une minute, l'investissement venant de l'étranger est une chose, mais on reste quand même devant ce besoin que il faut que la France, d'une façon ou d'une autre, devienne et redevienne une terre d'industrie. Et aujourd'hui, l'investissement des entreprises en place est plutôt insuffisant. D'accord ? Donc, il faut appeler à un effort collectif en faveur de l'industrie. Et j'ajoute, dans le contexte actuel, qu'on a besoin des corps intermédiaires pour ça. D'accord ? Des fédérations professionnelles et des syndicats pour discuter et se voir un avenir en commun.
Et ce sera le mot de la fin, signé Vincent Charlet du laboratoire d'IT, la fabrique de l'industrie. Et Benjamin Coriat était en face de vous. Économiste l'économiste Valentin Vaner pour la mise en onde. Et demain, derrière ce micro, vous retrouverez Guillaume Nodin. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.
7 milliards de voisins.